RCF.
Catholique et société, avec Yann Lecauze, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Yann, bonjour Michel. La semaine dernière, nous avons fait un peu d'histoire pour essayer de remonter aux sources de cette doctrine politique et sociale de l'Église. Mais nous sommes quittés sur une interrogation concernant l'étendue, la largeur, la longueur, le rayonnement de cette doctrine. Peut-être allons-nous pouvoir y revenir un petit peu aujourd'hui.
Yann, effectivement, j'ai tout de même une énorme difficulté à admettre que ce qui est vrai en France le soit de la même manière à Tokyo, à Kinshasa, à Rio. Le monde entier n'est quand même pas catholique.
Et malheureusement, peut-être que ça irait mieux. Je pense qu'il faut quand même considérer que l'Église, comparée à n'importe quelle autre organisation, a au moins une supériorité. L'ancienneté, nous en avons parlé. L'ancienneté, on a vu qu'elle s'inspirait de l'Ancien, du Nouveau Testament, qu'elle s'inspirait de, bien sûr, de la philosophie, de doctrine, de tout ce qui a été fait avant elle, de l'histoire, de la vie pratique des hommes, et que cette doctrine s'inspire également des écrits des papes. Mais elle a pour elle l'universalité. Quelle organisation aujourd'hui peut prétendre avoir étendu son activité dans les 5 parties du monde, dans les sociétés les plus diversement constituées? Quelle société peut prétendre avoir collecté la même expérience tout azimut dans les secteurs les plus reculés de la planète?
Elle est organisée... est-ce que cela veut dire qu'il y aurait une loi qui pourrait s'appliquer quel que soit le lieu où on se trouve?
Écoute, c'est de la provocation de ta part.
Non, pas
non,
du tout.
Non, parce que je pense à un auteur que j'ai déjà cité, je crois, dans une des précédentes émissions, Cicéron. Cicéron, il vivait, si ma mémoire est bonne, dans les 100 avant Jésus-Christ, 100 à 43 avant Jésus-Christ. Donc, il connaissait pas du tout le christianisme et il n'avait pas rencontré la tête d'un pape. Hein. Cicéron, je le lis quand même parce que il faudrait lire, il y a des quantités de passages. Je cite Cicéron dans le De Republica, de la République. Vous entendez, monsieur Macron? Il est, en effet, une loi véritable, à droite raison conforme à la nature, immuable et éternelle, qui appelle l'homme au devoir par ses commandements et le détourne du mal par ses défenses. On ne peut ni l'infirmer par d'autres lois, vous les entendez, messieurs les députés, ni déroger à quelques-uns de ses préceptes, ni l'abroger tout entière. Ni le Sénat, ni le peuple ne peuvent nous soustraire à son empire. Elle n'a pas besoin d'interprète qui l'explique. Il n'y en aura pas une à Rome, une autre à Athènes, une aujourd'hui, une autre demain, mais une seule et même loi éternelle, inaltérable, qui dans tous les temps régit à la fois tous les peuples. Je réponds partiellement à ta question.
Mais comment... Alors, je comprends bien que tu es en train de nous convaincre qu'il existe une loi naturelle, mais comment est-ce que je peux faire pour connaître cette loi, cette loi ?
Premièrement, il suffit de regarder la vie des hommes, de regarder au niveau de la planète, de regarder dans les différentes civilisations, je crois qu'aujourd'hui on a la possibilité de comparer, et de regarder dans l'histoire. Je viens de citer Cicéron, un grec, Sophocle, Antigone. Antigone, cette tragédie où on voit Antigone, malgré l'édit du roi Créon, prendre le corps de son frère Éthéocle, qui a été tué par Créon, et enterrer son frère. Et Créon avait pris un édit interdisant que le rebelle soit enterré. Et là, Antigone est arrêté sur la dépouille de son frère, et Créon lui pose la question en lui disant: ne connaissais-tu pas l'édit que j'avais fait passer sur l'interdiction d'enterrer le rebelle? Et Antigone a cette réflexion extraordinaire. Peut-être as-tu fait passer un édit, mais au-dessus de tes lois, il y a des lois qui sont supérieures, et c'est la loi du respect dû à tout corps.
D'où l'importance d'enseigner l'histoire.
D'où l'importance d'enseigner l'histoire.
Parce qu'on retrouve dans l'histoire l'expérience de l'exercice d'un pouvoir par la personne humaine. Et on voit très bien la constance qu'il peut y avoir sur ces différents principes.
Et effectivement, tout ce qui est de la loi naturelle, nous le retrouvons à travers les civilisations. On pourra revenir sur des exemples précis. J'ai, pour ma part, voyagé énormément dans le monde entier pour mes activités professionnelles et j'ai pu le vérifier. On aura l'occasion d'y revenir.
Après ce long voyage culturel et historique, nous allons revenir, Yann, vers justement ces expériences que tu as pu vivre.
Yann, tu exposais justement un exemple que tu avais vécu dans ta vie professionnelle du respect ou tout au moins de l'existence de cette loi naturelle.
Oui, j'ai passé 40 ans de mon activité à parcourir des entreprises à la demande des dirigeants, car nous leur proposions, dans notre équipe, des solutions qui se basent sur la loi naturelle pour faire en sorte que les hommes, comme disent nos politiciens aujourd'hui, vivent mieux ensemble et, entre autres termes, que l'entreprise soit plus efficace. Eh bien, j'ai été très, très surpris de voir que dans le monde entier, quand je dis dans le monde entier, bon, messieurs, je ne connais pas tous les pays, mais j'ai travaillé des entreprises en Inde, en Afrique du Sud, en Égypte, partout en Europe, aux États-Unis, Canada, sur des questions fondamentales. Par exemple, quand on met les gens au travail, qu'on les fait réfléchir sur cette question toute simple. Qu'attendez-vous des gens avec qui vous travaillez? Des boss, des collaborateurs, des collègues? Unanimement, qu'on soit en Inde, à Mumbai, qu'on soit à Johannesburg, qu'on fabrique des croquettes, que l'on soit dans n'importe quelle entreprise, on s'aperçoit que les réponses sont toujours identiques. Question de technicité, bien sûr, de compétences techniques, mais surtout des questions de comportements moraux, de relationnels. Il y a une loi naturelle, je n'y peux rien. C'est un constat. J'ai constaté également que le principe de subsidiarité était désiré partout. Chacun veut pouvoir maîtriser le domaine qui lui incombe.
Alors c'est très amusant parce que j'ai fait ce même exercice, non pas dans le monde entier, mais avec tous les syndicats. Et tous les syndicalistes que j'avais autour de la table avaient systématiquement la même réponse et défendaient l'appropriation par la personne des responsabilités qui lui incombent.
De son poste de travail, de son outil de production.
Exactement.
Et ça, je le retrouve partout. L'application du principe de subsidiarité, j'ai été bluffé en Inde, civilisation que je connais absolument pas. Quand j'ai demandé aux gens ce qu'ils attendaient de leur boss, de voir rigoureusement, pareil en Égypte, au pied des pyramides.
Les mêmes qualités.
Exactement les mêmes choses.
Les mêmes comportements.
Par contre, on s'aperçoit que la culture et la civilisation peuvent aller à l'encontre de ces inspirations. Et c'est là qu'on voit que, désolé de le dire, mais la différence, j'allais dire la supériorité de la civilisation chrétienne, c'est de voir qu'effectivement, elle a favorisé l'expression, la satisfaction de ses besoins, ce qui n'est pas le cas quand on va dans certaines autres civilisations.
Alors justement, l'existence de cette loi naturelle que tu démontres, elle est intelligible par toute personne, même si cette personne ne croit pas en Dieu. Qu'est-ce que la religion catholique nous apporte en plus dans la compréhension de ces principes?
Je crois que c'est la venue de notre Seigneur à l'incarnation.
Qui est une vérité historique.
Je pense qu'il y a suffisamment d'écrits d'historiens de l'époque pour le manifester. N'a fait que conforter. C'est pour ça qu'il faut être insensé pour s'écarter de ces principes. Et c'est pour ça que j'ai pu le constater dans ma vie professionnelle. Comme ces principes qui ont été entérinés par la venue de notre Seigneur sont des principes qui sont basés sur la loi naturelle, c'est-à-dire la loi inscrite dans le cœur de l'homme et dans la raison de l'homme. C'est pour ça que la doctrine de l'Église catholique, en matière politique, c'est-à-dire en matière de vie de la société, d'organisation de la société, est tout à fait acceptable, par toutes les personnes, par n'importe qui.
Mais je suis quand même face à une incompréhension. Pourquoi, si c'est aussi évident, n'est-ce pas appliqué aussi peu? Pourquoi cela ne marche-t-il pas si bien? Nous verrons la semaine prochaine cette nouvelle étape et nous vous souhaitons d'ici là une bonne journée.